I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Justement, en parlant de chant musical et d'IFM, Chris a aussi fait l'IFM. On va
une grande mafia de la mode.
Puissante mafia. Justement, comment est-ce que tu as compris, Chris, que tu voulais travailler dans la mode et pourquoi est-ce que tu as fait l'IFM?
Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un rapport à la mode qui est très lié aux vêtements. Moi, c'est pas forcément mon cas. Je pense que mon rapport à la mode, très tôt, était nourri par l'image. Et je suis toujours, en fait, passionné de magazines de mode et de défilés. Donc, moi, je regardais pas beaucoup la télé quand j'étais plus jeune, mais je regardais tout le temps Fashion TV. Genre, j'étais... Enfin, vous voyez, genre, le cliché des enfants qui sont devant la télé et, genre, il y a quelqu'un qui passe devant et on voit pas qu'il y a... Enfin,
pareil,
je me dis, mais c'est un peu flippant quand je vois des jeunes, entre guillemets, comme ça, devant. Je me dis, en fait, tu fais genre, mais t'étais pareil. Donc, donc ouais, franchement, je regardais beaucoup et je... Les magazines, genre, j'avais ce truc, en fait, de me dire... Moi, je regardais tout le temps les crédits. Genre, enfin, vous voyez, il y a la, juste après le hop, enfin, la lettre, là, entre guillemets, du rédac chef, etc. Il y a toujours tous les crédits de qui a participé au magazine, les contributeurs, oui. C'est qui au marketing, la publicité, le machin, les trucs. Mais genre, ça, je lisais ça, genre, comme si je devais apprendre je sais pas, genre un dictionnaire et tout. Pareil sur les séances mode, je disais bah c'est qui le styliste, c'est qui les designers, à la fin c'est qui les pubs, enfin. Et surtout que voilà, j'ai beaucoup déménagé, mais on va dire que donc, et j'ai pas grandi à Paris aussi, mais la partie le moment de ma vie où je suis hyper devenu obsédé de magazines de mode et de défilés, c'est quand j'habitais dans l'Oise. Et en vrai, je m'ennuie à mourir. Et en fait, parce qu'avant, on habitait en Ile-de-France avec ma famille, mais on avait déménagé. Et en fait, j'avais ce truc de me dire... En fait, j'ai su très tôt que la mode était un métier. Je savais pas vraiment ce que je pouvais y faire. Mais en fait, j'étais tellement obsédée par les crédits, je me disais, mais il y a tellement de gens qui travaillent dans ce magazine. Genre, ça fait, je sais pas, 100 pages, mais là, j'ai vu tellement de noms, et genre, je googlais les gens, et puis après, quand c'était les Fashion Week, genre, je disais à mes sœurs, ouais, venez avec moi, et tout, s'il vous plaît, et tout. Et genre, une de mes sœurs qui est très grande, très belle, genre, je lui disais, ouais, sois mon cobaye mannequin, comme c'était l'époque des street style, du coup, genre, je l'habillais, et puis je me disais, comme ça, on va te prendre en photo, et ça marchait trop bien, et moi, j'étais là, genre, ouais, ils prennent ma sœur en photo, trop bien.
Ah, donc tu faisais la styliste sur ta sœur.
Ouais. Et alors que elle, la mode, elle s'en fout, quoi. Enfin, genre, elle s'habille, elle s'habille bien et tout, mais genre,
oui.
Elle en a rien à faire, quoi.
Et du coup, à ce moment-là, t'aspirais à devenir styliste ou t'avais une autre carrière en tête?
Moi, je voulais être journaliste de mode. Parce que, enfin, en fait, c'est tellement par ça que j'ai aimé la mode que je me suis dit, genre, enfin, c'est sublime. En fait, si ces gens avaient pas existé, j'ai pas grandi dans la mode, quoi. Enfin, j'avais pas de famille qui travaillait dans la mode. Comme je disais, j'habitais pas à Paris directement. Enfin, mes parents travaillaient à Paris. Mes parents, après avoir grandi au Congo et tout, ont grandi à Paris. Mais, enfin, c'était pas mon quotidien, en fait. Donc, pour avoir accès à la mode, c'était soit Fashion TV, qui encore une fois est une émission sur laquelle il y a des journalistes qui font que c'est connu. Enfin, des journalistes ou des vidéastes, etc. Ou juste lire des magazines de mode. Enfin, et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai ce truc de, je voulais, ouais, j'aurais été journaliste de mode et en même temps, je savais pas trop comment ça marche, puis après...
Justement, t'as fait quel parcours scolaire? Parce que est-ce que t'as essayé de faire des études de journalisme?
Bah, en fait, en seconde, c'était pas dans un magazine de mode, mais j'ai fait un stage de journalisme à France Télévisions. Et en fait, je me suis dit, ah non, mais j'ai pas envie de faire journaliste, en fait.
Ça a pas duré
après,
longtemps.
Je pense que c'est différent parce que c'est la télé et tout,
oui,
mais
évidemment.
En fait, ce stage, ou même des parents que je connaissais qui étaient journalistes, je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression à ce moment-là qu'il n'y avait pas de retour sur le travail. Enfin, en fait, moi, chez moi, voilà, je suis obsédée de magazines, j'en ai plein chez moi dans ma chambre et je trouve ça trop beau. Mmh. Mais je veux dire, il y a un truc qui n'est pas comme un vêtement où, tu vois, par exemple, toi, ce que tu crées, tu peux voir des gens qui le portent.
Oui.
Moi, en fait, même quand je suis obsédée d'un magazine, d'articles et tout, bon, je peux en parler et parfois j'en parle sur mon compte Insta, mais... C'est pas comme si je vais me balader avec l'édito de je ne sais qui et puis je vais être là, j'en vois trop beau. Enfin, il y a un rapport qui est un peu différent.
Oui.
Mais du coup, après, moi, en fait, j'ai fait des études en vrai assez classiques. Genre d'une famille, on fait... Enfin, c'est... On nous dit, genre, faites ce que vous aimez, mais l'excellence, c'est cool aussi, quoi. Et du coup, j'ai deux grandes sœurs et ma sœur, la plus âgée, avait fait une classe prépa. Donc, moi, j'ai fait une prépa. J'ai fait une école de commerce. Donc, très, voilà, classique, mais...
Sans te demander ce que tu voulais faire après.
Non, mais en fait, moi, dès la terminale, je me suis dit, OK, je veux pas être styliste. Journaliste, je sais pas trop, en fait, si j'ai envie de le faire. Donc, je me suis dit, ah, faut que je fasse des recherches. Et en fait, je suis tombée sur l'IFM quand j'étais en terminale. Et donc, j'ai su que ça existait. Et moi, je voulais le faire direct après le bac, mais ce que je voulais faire, comme je voyais que j'étais pas créa, c'était plus management et tout, donc j'ai vu, il y avait marqué intégrable à bac plus 5, je dis bon, bah, ok, à dans 5 ans genre.
Ok, rendez-vous dans 5 ans, l'Institut français de la mode.
Voilà.
Mais comment tu savais que tu voulais faire plutôt côté management en terminale?
En fait, parce que justement, moi je suis quelqu'un, en étant plus jeune et tout, j'écrivais beaucoup et je continue à écrire beaucoup, mais j'avais pas du tout ce truc de dessin. Et pour moi, dans ma tête, on pouvait être créa que si on savait dessiner. Aujourd'hui, j'apprends que ce n'est pas, enfin, j'ai compris que ça n'était pas que ça. Mais pour moi, à l'époque, c'était beaucoup ça, parce qu'évidemment, les auras qui sont créées autour des designers, c'est toujours le designer, il dessine, etc. Et aussi, en art plastique, j'ai des notes très nazes. Et vraiment très, très nazes. Et en fait, une de mes plus grandes sœurs, donc au milieu, dessine, fait des tableaux, genre, et tous les profs qu'on avait eus à la suite, c'était là, genre, vous êtes sûr que vous êtes la sœur de votre sœur? Parce que vous savez pas dessiner, en fait.
Jamais réussi à faire des beaux dessins.
Rien.
Et ça m'a jamais intéressé.
Genre, je sais pas dessiner.
C'est pour ça que quand je fais un dessin, je préfère dire croquer que dessiner.
Ouais.
Vraiment un dessin pour comprendre comment l'allure va rendre, comment le vêtement va être monté et tout. Mais après, c'est beau parce que bon, on sent un parti pris style. Il y a une dégaine, mais je veux dire des beaux dessins, genre des. Ça me rappelle un peu ça, c'est pour ça que j'en
Franchement, moi, je savais rien dessiner et encore aujourd'hui, je fais des bonhommes bâtons. Enfin, franchement, En fait, bon, ça m'a bridé un peu ma créativité. Mmh. Bref. Et j'ai juste compris que l'IFM, c'était une école que tu pouvais faire pour entrer dans la mode, mais si tu savais pas dessiner. Moi, au début, j'ai compris ça très classico-classique. J'ai dit, bon, bah, ok. Et après, donc, même quand j'étais en prépa, qu'on me disait, tu veux faire quoi plus tard? Je disais, bah, moi, je traite dans la mode, plutôt côté management. Je sais pas encore ce qu'il y avait. J'aimais bien la presse et je voulais plus vraiment être journaliste. Donc, je me suis dit, les RP, ça a l'air bien. Parce qu'en fait, comme j'étudiais, genre, les magazines, je voyais qu'il se passait des trucs, qui envoyait quoi, et je savais pas vraiment ce que c'était, mais j'ai le sentiment qu'il y avait des métiers derrière. Et après, je pense que c'est aussi plein de séries ou de films ou même de... Enfin, tous ces témoignages, genre j'ai lu beaucoup de biographies ou de sur des designers ou des époques et tout, donc je commençais à voir des métiers exister un petit peu, même si je comprenais pas très bien.
Oui.
Et en fait, quand j'étais en école de commerce, j'étais présidente de l'association de mode de l'école. Et en fait, on organisait il y avait plein de choses, genre on organisait des défilés, donc du coup, il fallait repérer des jeunes designers. Et mon école, elle était à Lille, donc à côté, il y avait S-Mode, donc, il y avait aussi ce lien de la création. Il y avait une partie aussi très, genre, retail dans l'assaut où on faisait des ventes privées avec les boutiques du vieux Lille, des trucs. Enfin, plein de choses, mais aussi le défilé, c'était un truc que je trouvais incroyable et on a fait des décors de défilé. Enfin, genre je me disais, mais en fait, je sais pas ce que je vais y faire, mais je peux y faire un truc. J'étais vraiment hyper obsédée par l'IFM. Et en fait, pendant ma césure, quand j'étais en école de commerce, j'ai fait mes stages à Berlin. Et en fait, à chaque fois que je partais de Paris à Berlin, je devais prendre le Flixbus, genre à 37 euros, qui faisait 12 heures.
Tu te rappelles du prix, genre.
Ouais, je me rappelle, parce que ça coûte, enfin, franchement, j'étais là, mais
oui,
j'ai, en fait, ouais, genre, pour, et j'étais là, mais de toute façon, j'avais pas de sous pour prendre l'avion, donc, enfin, prendre le Flixbus, c'était horrible et tout, mais,
combien d'heures?
12 heures, genre. Oh. 12 ah, heures, t'as mal au dos.
12 heures
ah, genre,
c'est
mais
pas ton arrivée en Martinique.
Non, mais bah, 10 heures en bus, non, mais franchement, genre.
Ouais, tu peux l'aller autour.
Et mais le truc quand même, c'est que pendant un an et demi, à chaque fois que je revenais à Paris, la gare du Flixbus, elle est à Bercy, et en fait c'est juste à côté de l'IFM. Genre tu prends la ligne 6 et tu vois l'IFM à chaque fois, et je me disais
putain, bientôt, bientôt.
Je disais bientôt, bientôt et tout, genre vraiment. Enfin genre j'étais genre obsédée et tout, et je connaissais personne qui avait fait l'IFM avant, mais comme j'adore, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent LinkedIn et tout, mais moi c'est devenu mon meilleur ami quand j'étais en école de commerce, genre j'envoyais des messages aux gens en mode oui, j'ai vu que vous aviez fait l'IFM, est-ce que vous avez du temps pour parler avec moi, genre. Donc en fait il y a plein de gens quand je suis rentrée à l'IFM que je connaissais juste parce que un jour je les ai genre harcelé en vrai sur LinkedIn, et qu'après ils m'ont dit ok, on boit un café et tout, et et en fait voilà. Et donc du coup évidemment c'est des gens après qui m'ont dit
bien sûr cette application,
ouais voilà. Et après voilà, c'est des gens qui, quand je leur ai dit ben je prépare l'IFM, ils m'ont dit ok, si tu veux on s'appelle. Et c'est, il y a plein de gens que j'ai jamais rencontrés, genre.
Donc l'IFM c'est une école qui se prépare si on veut venir côté management du luxe.
Alors oui, je trouve, parce qu'en fait, enfin il y a deux types de préparation. Comme pour toutes les écoles, il y a des écoles pour lesquels t'es préparé depuis la naissance, parce qu'en fait t'as baigné dans un milieu de parents qui venaient de là, de références, enfin voilà, c'est très comme quand tu fais une prépa. Il y a des gens en prépa qui s'en sortent très bien, parce que moi je pense, moi j'étais un peu un cobaye pour ma grande sœur, genre elle m'a vu, on avait 7 ans d'écart, elle m'a dit toi t'as 10 ans, je vais te préparer pour aller en prépa, comme ça quand tu vas arriver ce sera hyper simple, ce qui n'a pas été pour elle en fait. Mais l'IFM en fait, c'est quand tu le fais en management, en créa, je sais pas forcément, mais il y a ce truc de devoir donc tu prépares un dossier de candidature, et en fait t'as plein de questions qui sont tournées autour de tes expériences professionnelles, mais c'est un peu qu'est-ce que tu arrives à dire de toi et de ton rapport à la mode à travers ce que tu as vécu. Donc ça veut pas, il y a des gens qu'on fait qui étaient dans ma classe et qui ont pas fait de stage dans la mode avant, genre qu'on fait des trucs finance, compta, droit, ou même qui ont fait par exemple bac plus 3 après qu'on commençait à travailler dans en vente, enfin plein de trucs. Mais en gros le dossier c'est un peu comment tu arrives à nous faire rêver dans ce que tu racontes. Et c'est ça en fait, je pense, qui, comment tu crées un lien au-delà de j'aime la mode et j'aime faire ci et j'aime faire ça, mais toi dans ton histoire, comment ça s'inscrit et comment tu penses que ça peut s'inscrire dans l'histoire de l'école. Donc ouais, du coup j'ai préparé un dossier pour lequel j'avoue franchement moi j'étais hyper stressée, genre j'ai l'impression que je jouais ma vie, genre j'ai passé je me suis dit genre il y a 5 sessions, moi je passe la première, comme ça si je l'ai je suis hyper contente, et si je l'ai pas c'est pas grave, je pleurais pendant toute l'année, c'est rien, tu vois. Genre vraiment. Et non, et franchement je voilà, j'ai eu l'IFM. Et
tu es entré en quelle année?
Moi j'ai fait 2019-2020. Et le dossier de préparation, donc tu prépares ton dossier, c'était en 2018, donc genre octobre 2018, novembre 2018, et donc t'as le dossier, et après t'as un oral devant des gens qui font partie du IFM, que ce soit des anciens, que ce soit des profs, que ce soit genre les amis de l'IFM, enfin un peu de tout, et ouais c'était 2019-2020 quoi.
Et justement, qu'est-ce que t'as appris dans cette formation?
Alors en fait moi mon année à l'IFM c'était un peu complexe, parce que avant, juste avant de venir à l'IFM, moi j'avais passé un an et demi à Berlin, et après je suis revenu un peu en école de commerce, mais genre j'étais vraiment en side parce que j'avais pas trop envie d'être là en vrai. Et en fait, quand je suis entré à l'IFM, j'ai un peu eu un choc culturel de me rappeler ce qu'était la mode en France, parce que du coup moi, au moment de faire mes stages, j'ai fui Paris et j'ai dit ouais non c'est mort, je vais pas faire mes stages à Paris, donc je les ai fait à Berlin en fait. Une ville qui a un rapport totalement différent à la mode, à la créativité, à genre...
C'est décomplexé.
C'est... En fait, il y a bien sûr, il y a d'autres codes, mais juste pour moi, venant de France et venant de Paris, ça me semblait beaucoup moins lourd en fait. Genre, faire de la mode, c'est pas que être dans d'une grande maison. Et moi, avant, c'est ce que je pensais. Et aller à Berlin, ça m'a vraiment décomplexé. Je me suis dit, mais en fait, le monde, il est grand, tu vois. Il y a peut-être d'autres choses que tu peux faire. Et ça n'empêche que je pense que j'ai un rapport à la mode aussi qui reste très français et parisien, parce que plein de références que j'ai, plein de magazines que j'ai lus. Enfin, c'est pas du tout un truc que je rejette et tout. Mais je pense que j'avais besoin de me sortir de ça, parce que je sentais que ça allait pas forcément m'épanouir tout de suite. Donc au début moi à l'IFM, ce qui était assez difficile, c'était se rendre compte que il y a des, du fait de la manière dont l'école est structurée, quand tu sors de l'IFM, quand t'es en management, il y a 80% des gens qui vont dans les maisons. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en fait, tu sais que t'as pas envie d'y aller. Mais en vrai, t'es quand même à l'IFM parce que tu voulais vraiment le faire. Et peut-être qu'il faudrait que tu y ailles parce que, pour une fois, t'aurais une expérience dans une maison. Donc, ça m'a vraiment, genre, tiraillé pendant l'année. Et même, enfin, tu sais, qu'on a les forums entreprises et tout. Mais genre, moi, j'y allais même pas, en fait. Je me disais, mais, puis, je vais y aller. Et puis, on m'avait dit des trucs, genre, ouais, vous êtes un ovni, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et en parallèle, j'avais déjà plein de projets, un peu perso sur des trucs, enfin, je sais pas, j'avais fait parfois des, je suis pas forcément dans le streetwear et tout, mais j'avais fait des ateliers, des trucs avec Nike, je faisais, ouais, je faisais plein de trucs différents, et du coup j'ai l'impression qu'on savait pas trop mettre.
Ah ben oui.
Et l'IFM, c'est une école qui te met à un endroit quand même.
Mais c'est clair.
Après, moi, c'est une école que je suis hyper heureuse d'avoir fait. Mmh. Déjà parce que comme toi, c'était un rêve et je me dis, en fait, c'est ouf dans sa vie une fois d'avoir pu réaliser un de ses rêves quand même. Genre,
oui.
Parce que
c'est exceptionnel. C'est pas normal.
Oui. Non mais tu te dis juste genre en vrai je suis trop fière de moi et franchement il y avait des trucs l'année en gros concrètement comment ça se passe à l'IFM en tout cas en management genre de septembre à décembre t'as des cours en tronc commun avec toute ta classe. Moi l'année où je suis rentrée dans ma classe on était 70, il y avait 20 alternances, c'était la première année,
oui,
et genre 50 en non alternance, moi j'étais en non alternance on va dire, et donc t'as des cours généraux, histoire de la mode, retail, culture mode, tu fais des analyses de défilés, il y a des trucs aussi très chiffrés, on va faire économie de la mode, économie du luxe, géopolitique, enfin c'est le premier semestre c'est un peu genre pour moi c'est la prépa école de commerce appliquée à la mode et au luxe, genre tu comprennes les différents métiers, les différentes dynamiques, différentes influences, et ça c'était cool parce qu'en fait tu te dis genre mais en fait, des cours pour lesquels moi, quand j'étais en école de commerce ou en prépa, je faisais des liens tout le temps entre « Ah, ça me fait penser à la mode », et les profs étaient là genre « Non mais en fait, enfin, qu'est-ce que tu racontes, c'est très très loin ». Bah là, en fait, t'es des gens qui te disent « Oui, ça et ça, c'est lié, etc. »
Spoiler, la mode est en commerce.
Ouais, j'étais là genre « Mais okay, c'est trop bizarre, vous ». Et donc ça, c'était hyper cool. Et surtout, voilà, j'ai rencontré des gens qui sont, enfin, pour beaucoup... des amis, genre une vraie famille et tout, tu vois. Donc et après au deuxième semestre, c'est coupé en t'as genre un truc qui s'appelle parcours métier ou un truc comme ça, où en gros tu choisis soit développement produit, soit communication, soit retail. Moi je savais que je voulais plus déjà évoluer dans la communication, mais comme j'en avais déjà beaucoup fait, je me suis dit ok, je vais aller en retail et je suis pas allé en produit parce que alors moi en cours de produit, genre fallait faire un book et tout, c'était, je trouve c'est le travail le plus difficile, j'étais là genre je comprends rien, j'arrive pas, genre, et en même temps ça m'a tellement appris, mais je me suis dit non, en fait, enfin, c'est mieux, tu conseilles les designers, mais crois pas que t'es designer, genre. Ça m'a appris énormément de choses, mais juste, c'était pas là où j'étais le plus épanouie. J'ai fait les cours de retail, c'était hyper intéressant, mais je pense que c'est une partie qui est bonne à savoir quand t'es dans la mode, mais moi, en fait, je me suis dit, moi, je veux faire de la communication de marque, je veux faire du récit, etc. Et après, t'as une partie qui est plus sur les parcours sectorialisés. En gros, t'avais soit parfum et cosmétiques, soit design art de vivre, soit il y en avait un autre, j'ai oublié. Moi, j'avais pris parfum et cosmétiques et j'ai bien aimé, mais j'ai tout le temps des migraines dans les cours de parfum. Donc, je sais là, en fait, toi, tu prends des trucs et puis tu tires des balles dans le pied. Voilà. Mais bon, j'ai quand même validé, c'était cool. Et après, t'as des rendus et un truc que j'ai trouvé super cool, mais qui était pas évident, c'était on avait des cas d'entreprise. Et moi, la où j'étais, c'est quand Rihanna et sa marque Fenty Maison. Et en fait, mon cas d'entreprise avec 5 personnes de ma... Enfin, il y avait plusieurs groupes, on était genre 4 sur cette marque. Mais du coup, on a présenté une strate de marque pour Fenty, en fait.
Donc, c'était avant que ça devienne un échec commercial.
Ouais, voilà. Juste mais
donc, petit point contexte, attendez, Rihanna, ouais, elle a sorti une maison, enfin une marque. C'est la première fois que LVMH investissait dans une marque, créait une marque de toutes pièces plutôt que de racheter un nom déjà existant. C'était pas arrivé depuis Christian Lacroix en 91, il me semble. Mmh. Et du coup, LVMH a investi pour que Rihanna sorte Fenty, sachant qu'elle avait, semble-t-il, confirmé que ça pourrait être une réussite commerciale en lançant avec succès, en étant DA de Puma, par exemple. Mmh. Et il y avait Fenty Makeup qui cartonnait déjà. Et puis elle allait lancer le skincare bientôt, et puis il y avait la lingerie aussi qui marchait déjà, Savage X Fenty. Mmh. Donc finalement ça a duré à peu près 2 ans, non?
Non, House, mais Fenty, même pas, genre, enfin franchement
la maison même,
ouais, ça... House of Fenty, je crois que c'est 2 ans, un truc comme ça,
2 ans ou même 1 an et demi, parce qu'en vrai nous le KIFM c'était genre en février 2020,
ça n'a pas duré longtemps,
je crois.
Oui.
et l'année, enfin limite après ils ont sorti une collection et après plus rien, et ils ont annoncé des mois plus tard, genre peut-être l'année suivante, que c'était fermé. Mais en vrai nous, pour l'anecdote, ce qu'on trouvait fou, c'est que on a présenté notre cas devant tout le monde sauf Rihanna, bien sûr, mais tout le monde était au siège, c'était trop bien et tout. Enfin, ouais. c'était assez ouf en vrai. Et sur l'analyse poussée, et en même temps, en fait, plus on analysait la marque et plus on se disait, mais non, mais en fait, ça va pas durer. Mais non, mais c'est horrible. Mais en fait, pour moi, c'était horrible de me dire ça parce que à l'IFM, quand t'es en parcours en management,
c'était basé sur. En fait, ça a été basé sur quoi?
L'échec ou le
non, quand vous aviez imaginé que oui.
Alors en fait, en gros, si tu veux, il y a eu la CEO de Fenty, donc c'est pas Rihanna, il y avait vraiment une personne, oui, genre la CEO de Fenty qui est venue nous voir, qui nous a présenté la marque, tu vois, genre l'ADN de marque, les différents points, ce qui ont été fait les précédentes collections. Et nous, la question qu'on a eue, c'était comment la marque Fenty, je crois, peut sortir de son territoire de marque et se dissocier de Rihanna la personne, tout en bénéficiant de son aura et en réussissant à se construire comme une maison patrimoniale.
Ah oui, mais Fenty, c'est Rihanna.
Et en fait, nous, déjà, la problématique, on s'est dit, mais... Enfin, c'était un peu weird pour nous, parce qu'on se disait, mais en fait...
Sans elle,
enfin, je veux dire, les gens, ils achèteraient pas. Et en fait, en faisant l'analyse, il y avait beaucoup de choses où, évidemment, on a comparé les différentes marques que Rihanna avait déjà, donc oui. Beauty, Savage, on se disait, on a l'impression que cette marque-là, c'est là où elle est la moins investie. Et quand je vous dis moins investie, c'est pas forcément l'argent ou quoi, mais même, en fait, tu regardais le compte Insta de Rihanna... Et elle taguait presque jamais Fenty le prêt-à-up, mais genre Savage tout le temps, la cosmétique tout le temps. Et en fait, enfin, elles ont aussi marché pour ça, ces marques-là. Après, il y avait aussi, bien sûr, la question du pricing, la question du styling, des inspirations et tout. Mais genre, plus on creusait le truc, et moi, c'est un truc que j'ai adoré à l'IFM, c'est genre l'analyse de marque, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une marque marche ou ne marche pas? Après, il y a aussi plein de choses qui sont subjectives. Mais je trouve que ça, c'est une très grande force en vrai à l'IFM de nous faire analyser des marques comme des autres, sauf que c'est pas des marques comme des autres parce qu'il y a une question de sensibilité très forte, mais en fait même les sensibilités ça peut s'analyser quoi.
Bien sûr.
Et voilà, donc moi j'ai fait l'IFM et j'avais un mémoire aussi à faire et franchement c'est une école que je suis encore hyper fier d'avoir faite. Aujourd'hui je reviens, je donne des cours et tout, c'est marrant, c'est très bizarre,
c'est
genre.
Mais du coup t'es un mélange de tellement de choses en même temps, c'est dingue.
Ouais.
En fait, j'ai fait
plein de trucs hyper.
Tu peux nous rappeler ton âge?
J'ai 26 ans, j'ai 27 cette année.
Oh my god, mais non, mais c'est trop bien.
Petit point contexte, encore une fois, désolé. Christian Lacroix, c'était 1987. La maison a été mise en sommeil des années plus tard. Je me rappelle d'une critique de Tim Blanks, qui est un grand journaliste mode, qui disait la maison Christian Lacroix, c'était un peu comme danser au bord des lèvres d'un volcan, pour expliquer l'échec commercial de cette maison, qui ne vendait rien, mais qui habillait les plus grandes, et surtout le théâtre. Et Fenty, ça a été lancé en mai 2019 et ça a été mis en sommeil en février 2021, donc
ouais,
deux ans. Voilà, gros échec commercial.
C'était magnifique, hein. Il y avait vraiment une palette de couleurs incroyable,
ouais,
imprimée. Ça, c'est vraiment des marques qui sont inspirantes pour moi.
Oh ouais, c'est ce canon, et je me rappelle quand il a fait une collection avec Dries Van Noten il y a 2-3 ans,
ouais.
C'est extraordinaire.
Oh là là.
Voilà, je vais vous la glisser dans le chat. Ok, et justement, après l'IFM, aujourd'hui, Chris, du coup, tu travailles dans une boîte de Web3, et justement, je ne comprends pas ce que c'est.
Ouais, ah oui. Alors, en gros, moi...
technologie.
Ouais, moi, en fait, en gros, comment je suis arrivé là, déjà, moi, quand j'ai fait mes stages à Berlin, au tout début, j'ai fait un stage en PR dans une agence qui représentait des marques comme Vuitton, Fendi, Piaget, enfin, c'était le luxe, quoi. Mais ça m'avait pas forcément plu. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose. Donc, à ce moment-là, à Berlin, il y avait le siège de Zalando. Donc, moi, j'y suis un peu allé à reculons, en vrai. Et puisque je suis très, déjà, j'ai le seul truc que j'achète sur Internet encore aujourd'hui, genre, c'est mes billets d'avion et train. Donc, j'étais un peu genre, est-ce que c'est pas bizarre d'aller travailler pour de l'e-commerce si toi-même t'en achètes pas? Mais bon, bref. Mais je me suis dit, en plus, Berlin, enfin, Zalando, c'est la boîte, c'est un peu encore le cas, mais c'est la boîte la plus cool où travailler à Berlin et tout. Donc, il y avait aussi ce truc. Donc, c'est ma première expérience dans un truc e-commerce et tout. J'ai fait du brand marketing. Après, quand je suis rentré après l'IFM, moi, j'ai fait mon stage chez VCR Collective. Mmh. Et en fait, donc, j'avais déjà ce truc de mode et tech, en gros. Enfin, les types de structures dans lesquelles j'étais. Et la boîte que j'ai rejoint, là où je suis aujourd'hui, en fait, elle avait ce challenge qu'elle a toujours de, elle utilisait en fait le, au tout début, c'est plus le cas aujourd'hui, mais elle utilisait le Web3 pour associer une identité numérique aux produits de luxe, pour leur offrir, en fait, pour permettre au client qui a le produit physique en main d'avoir dans un téléphone, dans un wallet, toutes les informations sur la traçabilité du produit, donc en amont, mais aussi en aval sur l'expérience client. En fait, grâce à ce produit, on peut reconnaître que j'ai participé à la soirée de lancement de tel parfum, que je suis un acheteur hyper engagé de telle marque, que, enfin, y a, en gros, c'est un suivi genre du produit de avant que tu l'aies en main jusqu'à ce que tu l'aies en main, et même si tu le revends, en fait, t'as cette capacité de en gros, quand tu transfères la propriété physique de ton produit, tu transfères aussi la propriété numérique de ce produit à la personne qui l'achète ensuite. Mmh. Et en fait, la personne, le nouvel acheteur, le nouveau propriétaire, connaît la vie du produit avant.
Un peu comme un passeport.
Un peu comme un passeport.
Ouais. Des tampons de visa.
Ouais, genre passeport numérique. Mmh. Aujourd'hui, ma boîte, elle a changé, elle fait plus entièrement ça. Mais en gros, moi, je suis venu dans cette boîte pour ça, en me disant, je sais pas, ça a l'air d'être une nouvelle technologie, ça a l'air intéressant. C'est une boîte, au début, je suis arrivé, on était 10, maintenant on est 60, et ça fait 2 ans, donc je pensais pas forcément qu'on allait être autant, et voilà, c'est un plaisir. Mais et donc, en fait, pour vous expliquer un peu le Web3, ce que c'est, il faut que je vous explique d'abord ce qu'est le Web1, et après le Web2, et après le Web3. Ouais. En gros, en fait, le Web1, c'est l'Internet tel qu'il a été créé au tout départ, où c'est juste des gens qui vont écrire et créer des choses sur Internet, mais qui restent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Genre, en fait, qui reste entre elles. Il n'y a pas de circulation des informations.
Pas de lien.
Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas de lien. Le Web 2, c'est l'Internet majoritairement comme on le connaît aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous échangez voilà des données, etc.
Mais il y a du lien,
mais tout est centralisé. Ça veut dire que la majorité des data qui sont sur Internet aujourd'hui appartiennent à Google, appartiennent à Facebook, appartiennent enfin à tous ces GAFA.
Oui.
Et en fait, toi, quand tu perds, enfin tout ce que tu produis sur Instagram ne t'appartient pas, mais appartient au genre à l'hébergeur, on va dire, de ça. Voilà. Donc ça, c'est le Web 2. Et en fait, le Web 3, c'est l'Internet décentralisé. C'est un Internet sur lequel les données, en fait, qu'on dit genre, c'est un Internet qui permet aux consommateurs, enfin aux utilisateurs, de reprendre le pouvoir sur leurs données personnelles. C'est simplement en fait un Internet sur lequel les données produites appartiennent à la personne qui les produit elle-même. Et pour s'assurer de ça, il y a un système sécurisé qu'on appelle la blockchain qui vient valider à chaque fois toutes les transactions et toutes les choses qui sont réalisées et qui en fait il y a une interdépendance telle que en fait c'est décentralisé. Il y a personne qui en fait Si on se dit s'il y a 1000 personnes qui sont sur un réseau dit Web3, chacune de ces 1000 personnes possède ce qu'elle produit elle-même. Et si moi j'ai envie, et si toi par exemple, tu vois, j'ai envie de, on va dire, genre, tu vois, par exemple, même, on va dire, ta robe, on va dire qu'on va tokeniser cette robe, donc avoir une identité numérique de cette robe. En fait, là où dans le monde physique, ta robe, elle va être déclinée en genre 1000, même s'il y a écrit numéro de série 1 sur 10, etc. Dans le monde numérique, on va reproduire cette pièce en une pièce unique et la propriété sera unique. Donc en fait, si la robe m'appartient à moi et que j'ai envie qu'elle t'appartienne à toi, il faut que j'accepte de ne qu'elle ne m'appartienne plus, en fait.
Oui, donc ça veut dire
qu'il y a un transfert de propriété.
Ça ne peut pas être partagé, en fait.
Voilà, exactement. Et en fait, le Web3, aujourd'hui, pour les marques, c'est... Enfin, voilà, il y a vraiment différents enjeux, mais c'est... pour une marque, c'est comment est-ce qu'une marque peut reprendre le contrôle de ses données personnelles aussi, et de pas se dire, ah, en fait, demain, Facebook, ça a crashé, du coup, j'ai plus aucun lien avec mes clients. C'est aussi, comme je vous en parlais au début avec la question des passeports numériques, comment je fais pour partager des informations fiables et vérifiées à mon acheteur final, parce que, il y a eu tellement de scandales en fait sur la traçabilité des produits que aujourd'hui c'est se dire et là je vais vous expliquer un peu le lien entre l'identité physique et numérique. Par exemple, dans le cas de la mode, ça peut être via un QR code. Donc tu flashes un QR code, tu vas on dit claimer la propriété, donc ça veut dire que tu vas devenir propriétaire de cette identité numérique là et de là sur ton téléphone, sur un wallet, tu auras voilà toutes les infos. Ça peut être via un QR code, ça peut être via un lien envoyé par un email, ça peut être via une puce NFC. En gros, tu passes ton tel et puis là directement ça passe. Donc c'est pas genre par le Saint-Esprit on se dit OK, je suis dans le physique et puis après c'est le mec. Enfin, il y a des trucs qui existent pour vraiment genre lier, et je le dis parce qu'en fait, je pense que c'est vrai que quand on est hors du web 3, ça a l'air très dur à comprendre ce que j'entends, parce qu'en fait c'est pas nouveau, mais c'est la médiatisation est nouvelle. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un tous les jours tu utilises internet, mais en fait est-ce que tu sais comment fonctionne, en fait, quand t'écris un message à quelqu'un sur Insta, est-ce que tu connais le code qui est mis derrière pour savoir que ton message il va m'arriver, tu vois, genre. Enfin, à part les techniciens des techniciens, il y a très peu de gens qui savent ça. Et en fait, ce que je trouve assez fou et paradoxal avec le Web3, c'est que les gens s'intéressent à comment le soubassement de la technologie fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que c'est hyper complexe d'expliquer aux gens. Et même moi, genre, ok, je suis quelqu'un d'hyper curieux et je m'intéresse à la tech, mais enfin, franchement, j'ai appris tout sur le Web3, genre dans ce job, parce qu'au début, j'étais en mode. Ok, oui, genre la blockchain, technologie et tout, et donc voilà.
Mais justement, est-ce que ce genre de service, c'est intéressant pour les particuliers aujourd'hui, ou est-ce que c'est surtout les marques qui l'investissent
Alors, moi, je dirais... Alors, franchement, il y a différents trucs. Bah, je vais vous donner un exemple. Donc, l'année dernière, enfin, c'est mon anniversaire. Bon, cette année aussi, ce sera mon anniversaire, mais bon, bref, voilà.
Merci, Chris.
Non, mais en fait, en gros, par exemple, moi, j'ai un pote pour mon anniversaire. Il s'est dit, je vais te créer un token de ton anniversaire. En gros, c'est un mec à fond.
Donc, il a un token de l'événement.
Non, mais en fait, en gros, il a créé sur un réseau Web3. Non, pas du tout un metaverse, c'est encore autre chose, mais il a créé sur un réseau Web3. En gros, il a tokenisé le carton d'invitation de mon anniversaire. Okay. Et en fait, à partir de ça, il y avait un QR code ou un lien. Chaque personne à l'entrée, genre, flashait ou mettait le lien. Et après, elle avait sur son téléphone et a marqué « preuve de propriété, vous étiez à l'anniversaire de Chris, blablabla ».
Finalement, tout le monde l'avait.
Donc, en fait, tous les gens qui étaient à l'anniversaire, mais ils avaient tous un numéro de série, genre, différent. Moi, à la fin, je pouvais savoir combien de gens avaient clémé. Je peux pas savoir qui exactement, parce qu'il y a aussi ça, le respect des données personnelles. Mais en fait, ça, c'est juste un truc fun, tu vois. Oui. Mais après, par exemple, et je rebondis sur le cas des jeunes designers... Moi, souvent, on me dit, bah, comment les jeunes designers, ils peuvent utiliser le Web3 et tout. Enfin, je pense qu'il y a, il y a plein d'aspects différents, que ce soit sur la relation client, le CRM, la traçabilité, etc. Mais pour moi, le premier avantage pour un, et quand je dis jeunes designers, enfin, voilà, c'est par exemple quelqu'un comme toi, c'est que aujourd'hui, même si sur le marché des NFT, il y a eu un... Enfin voilà, la folie est moins folle qu'il y a 2 ans. Il y a quand même des gens juste qui sont collectionneurs, en fait. Genre qui sont collectionneurs d'art numérique. Donc moi, c'est pas ce que ma boîte fait, mais il y a cette partie dans le Web3 qui est aussi l'art numérique.
Ce qu'on appelle les NFT, c'est un peu ça?
Bah, en fait, les NFT, ça peut être l'art numérique, mais les NFT, ça peut aussi être...
En fait, comme un Chanel.
Ouais, genre face ou juste la représentation numérique de ta pièce, c'est juste en gros le NFT.
Le double numérique.
En fait, c'est à la fois un NFT, ça peut être un double numérique, un NFT peut être une preuve de tous les NFT sont des preuves de propriété, mais t'as vraiment genre le double numérique, tu peux avoir un NFT qui va être un espèce de pass membership qui fait que t'as ce NFT, donc tu fais partie d'une communauté de gens exclusifs. Mmh. Tu vas avoir le NFT qui fait que tu vas pouvoir accéder à des événements, tu vas avoir le NFT genre pure œuvre d'art numérique. Enfin, en fait, tout dépend de l'utilité que les gens mettent derrière. Après, l'utilité de base, quoi qu'il arrive, c'est la preuve de propriété et d'authenticité. Quoi qu'il arrive, genre, t'es le seul, etc. Et en fait, en gros, pour un jeune designer, moi, je dis souvent, en fait, il y a plein de gens dans le monde du Web3 qui collectionnent des œuvres d'art qui sont pas folles, genre vraiment que je trouve pas folles, mais qui, quand ils voient un truc beau, ils se disent « Ah, mais c'est trop bien !» Et en fait, enfin, t'as des NFT qui sont... C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais qui se vendent quand même à des fortunes ou au-delà même de fortunes. Bah, en fait, t'as un designer, tu cherches des investisseurs. Mais en fait, pour moi, parfois, je me dis, mais genre, quand en fait, ton investisseur, c'est juste un mec, une meuf qui a acheté une de tes pièces tokenisées, qui veut même pas savoir qui t'es, mais qui est juste dans un truc de, moi je collectionne des œuvres d'art numériques et je, bah en fait les gens ils payent et du coup, enfin, il y a des gens, ok, il y a des NFT qui se sont vendus à des millions, c'est pas le cas pour tous, mais il y a des NFT qui se vendent à 1000, il y en a à 100, il y en a à 2000, à 5000. En fait, bah 5000 pour un designer c'est un montant.
Oui.
C'est un montant.
Bien sûr. Donc ça permet de faire plein de choses.
Ça permet de faire plein de choses. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte, parce que c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas si compliqué, parce qu'après c'est un autre métier, il faut faut travailler avec des gens qu'on appelle des développeurs blockchain, etc. Mais il y a aussi beaucoup de forums aujourd'hui sur lesquels je vois des gens qui se forment un peu dessus, ou comme quand tu cherches quelqu'un qui fait du PR, en fait, c'est de dire bah peut-être t'as envie de chercher quelqu'un qui fait des NFT, qui va te tokeniser tes trucs, qui va les vendre sur les plateformes qui sont des marketplaces de NFT. Tu récupères ton argent et voilà, t'es content. Tous les NFT ne sont pas mis en vente. Par exemple, les NFT que ma boîte fait, majoritairement, ils sont pas mis en vente. Ça va avec les services. C'est des services que les marques donnent, en fait. Ça fait partie de, voilà, t'as acheté, je sais pas, genre ta montre, et en fait, tu vas avoir le double numérique de ta montre qui va te permettre d'accéder à toute la traçabilité.
Mais quand tu fais ça, en fait, la pièce, elle existe forcément réellement pour pouvoir être numérisée, ou elle peut?
Bah, pas forcément. Okay. Il y a des plateformes qui font aussi uniquement de la digital fashion, en gros, et parce que la digital fashion n'existe pas qu'en NFT, enfin ça date pas, c'est pas nouveau, en fait, qu'il y ait des pièces
actuel,
de mode numérique. C'est juste que quand derrière ça, c'est le soubassement, c'est le Web3 et le NFT, t'as la certitude de l'unicité. Et moi j'en parlais avec je sais plus avec qui je parlais de ça, mais il y a aussi ce truc, et c'est pas forcément lié au NFT en elle-même, mais voilà, on sait que les jeunes designers perdent aussi beaucoup d'argent dans les protos, dans savoir à quoi ça va ressembler vraiment et tout. Je pense que c'est aussi, on parle beaucoup de la digital fashion pour des trucs un peu gimmick et tout, waouh, c'est trop cool. Pour moi, je me dis, enfin, en fait, le fait de pouvoir modéliser ses créations dans des mondes numériques, c'est aussi pouvoir voir, en fait, genre devant, derrière,
oui,
à quoi ça ressemblait.
Après, sans,
c'est
pour
sûr,
autant le faire avec un matériel.
Oui, voilà, avec un matériel
c'est des frais en moins.
Donc après, c'est sûr que c'est différent de toucher la chair, etc. Mais je pense que sur certaines pièces, parfois, je me dis peut-être que il y a des coûts, en fait, on verrait que c'est beaucoup moins coûteux, genre à la longue, pour certains designers, de faire leurs tests en modélisation, en digital fashion, plutôt que de le faire sur un truc...
C'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, il faut forcément qu'à un moment donné, on passe au réel. Enfin, je veux dire...
Oui, bien sûr. Non. Après, moi, je suis... Enfin, je t'ai dit, je commence sur Internet.
Mais c'est vraiment un domaine qui, pour moi, était vraiment très flou, hein, parce que même si je suis un... jeune designer, en fait, j'ai l'impression d'être un peu de la vieille école, tu sais, genre qui va faire son croquis, qui va mettre son échantillon à côté,
un crayon, des ciseaux, un bec à coudre,
ça, genre faire les dossiers, les trucs. Oh là là, my god.
Il y a un Laurent Gate qui dit c'est dingue parce qu'aujourd'hui je comprends strictement rien à ce qu'elle dit, alors que je suis sûr que d'ici quelques années ce sera la norme. C'est donc comme ça que se sentaient nos grands-parents à l'avènement d'Internet.
Internet, là c'est...
Désolé.
En mode...
Non, mais c'est hyper intéressant, et moi je crois que ce qui m'a aidé à comprendre l'intérêt, ou l'un des enjeux principaux que ça... Enfin, le plus accessible, en tout cas le plus concret aujourd'hui, des NFT et du Web3, c'est l'enjeu d'authenticité, de prouver l'authenticité, parce que NFT, ça veut dire non-fungible token, donc c'est quelque chose d'unique. Quand t'achètes un sac de luxe, par exemple, t'as envie de savoir qu'il est authentique. Et du coup, s'il a un passeport numérique, un double numérique qui te permet de savoir qui l'a acheté, quand, où, comment, en quelle année, etc. Et ben, à chaque fois que tu rachètes le sac dans le marché de la seconde main, par exemple, tu peux avoir la traçabilité de quand est-ce qu'il a été acheté pour la première fois, dans quelle boutique et tout. Et donc, quand tu le rachètes sur Vinted ou sur Vista Collective, t'es sûr qu'il est vrai parce qu'il est fourni avec son NFT. C'est mieux qu'un ticket de caisse.
Je pense que la traçabilité aussi, c'est bien aussi pour savoir dans quel pays ça a été fabriqué, imaginer dans quelles conditions également. Enfin, je veux dire, il y a tout ça aussi.
Oui, tout à l'heure, Chris, tu parlais de traçabilité. Effectivement, là, il y a la loi anti-gaspillage qui entre en vigueur en France, un autre volet de la loi anti-gaspillage, qui exige maintenant que les grosses marques de mode... informe sur la traçabilité des vêtements, genre chaque étape de production du champ de coton jusqu'au t-shirt dans ta boutique que tu peux acheter. Et ben effectivement, plein de marques choisissent de faire des QR codes pour que ce soit scannable facilement en deux clics, plutôt que d'avoir une étiquette qui fait 4000 kilomètres dans le vêtement.
Comment contenir l'information d'une manière ludique aussi, et comment on rend possible l'évolution de cette information avec l'évolution de la vie du produit. tu vois, genre revente, pas revente, réparation, recyclage, enfin, et aujourd'hui il y a plein de produits où même parfois il y a même ce truc de se dire, parfois il y a des gens qui veulent recycler les pièces, mais en fait sur l'étiquette il y a plus rien écrit,
c'est effacé
et en fait tu sais pas en quoi ton truc est fait. Et c'est aussi se dire, en fait, si toutes ces pièces avaient un NFT associé, en fait tu sais ce qu'il y a dans la pièce, et parce que évidemment tout le monde va pas s'amuser à repartir en boutique et dire bonjour, ma pièce c'est ça, qu'est-ce qu'il y a dedans, enfin voilà, on sait très bien comment on est. Donc il y a aussi, moi je pense que il y a beaucoup d'opportunités sur je sais que ça va un peu dans tous les sens, mais c'est aussi ça, c'est une technologie qui est sur qu'est-ce qu'on a envie d'inventer de la mode du futur, en fait. Et je pense que je dis toujours aux gens, moi je vous encourage, enfin c'est même pas un encouragement, genre allez tous traiter dans le Web3, c'est même pas ça et tout, parce que chacun son truc et tout, mais c'est vraiment, en fait, c'est important, je pense, aujourd'hui de s'y intéresser, au moins pour essayer de comprendre un peu ce dont il en ressort, etc. Tu prends, c'est bien, tu prends pas, c'est pas grave, mais au moins, en fait, pour un peu essayer de comprendre, parce que voilà, on rigolait tout à l'heure en disant ouais, nos parents larguaient sur internet et tout, mais en fait, enfin non, mais en vrai, genre parfois je me dis non, mais en fait le Web3, parfois c'est effrayant, parce que je vois que ça va tellement vite que je me dis, mais les gens, ils vont être largués tellement vite. Genre imagine que demain ton passeport, en fait ton passeport dans la vraie vie, tout est tokenisé, et qu'en fait c'est pas utiliser un wallet, et que mais je me dis, mais en fait, enfin voilà, c'est, mais comme
oui, on parle d'illettrisme numérique aussi,
oui, pour c'est ça, en fait,
parce qu'il y a des, mais en fait c'est vrai que tu parles de nos parents et tout ça, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont fait partie d'une ère et qui font partie de plusieurs ères,
oui,
en fait. Et
tu vois, qui sont
obligés, en fait, de se s'adapter,
s'update à ce qui se passe,
c'est-à-dire qu'ils sont encore plus âgés que nos parents, par exemple, et qui sont complètement paralysés, entre guillemets, parce que, enfin...
Ouais, genre, comment écrire un SMS, comment...
Oui, ou même...
L'application Tous Anti-Covid pour savoir si t'es vacciné, oui, ou quoi, c'était QR code sur le téléphone, quoi, parce qu'il n'y avait pas de smartphone, t'étais dans la merde.
C'est quelque chose, hein.
Ouais, c'est extraordinaire, ça va hyper vite, effectivement. Je parle avec des gens qui font des vidéos en IA.
Oui,
Et ils me disaient, oui, il y a encore 3 mois, on pouvait à peine faire des clips de plus de 1 minute. Et maintenant, on arrive à générer des clips comme ça en une nuit, automatiquement, en 2 clics, quoi. Et ça va extrêmement vite, ouais. Et toi, Chris, comment est-ce que tu vois le futur de la mode? Est-ce que tu penses que demain, on aura tous des vêtements avec double numérique en NFT?
En fait, je pense que cette décision, elle appartient aussi aux marques, parce que
il y a certaines marques aussi.
Il y a certaines marques, parce que
malheureusement, on peut pas tous le faire.
Parce que ça a un coût. Enfin, voilà, il y a des coûts très divers et tout, mais c'est toujours la même question. En fait, c'est les plus gros. C'est à partir du moment où les plus gros acteurs s'y mettent, qu'il y a un espèce de blueprint. Genre tout le monde le fait, tout le monde s'y met. Moi, juste très concrètement, je vois juste l'intérêt pour beaucoup de choses, autant sur cette partie, comme je vous dis, traçabilité amont aval, autant cet aspect financement de type de projet pour des gens qui lancent des projets designers, etc. Autant vraiment la partie sur l'expérience client, en fait, se dire, et je donne un exemple, ok, je suis fan d'elle et tout, évidemment, fait que je suis place son, je suis trop fan d'elle, mais par exemple, enfin voilà, elle a sorti ses places de concert récemment.
Aya Nakamura,
je dis ça comme si c'était mon ami alors qu'il sait même pas qui je suis, enfin bon, bref, mais typiquement elle a sorti ses places de concert là. Elle a sorti ses places de concert là récemment, et moi je trouve que la manière dont la stratégie de vente a été mise en place,
il n'y avait pas de stratégie.
Non, mais en gros, enfin, ouais, mais en fait, en gros, ce qu'elle a fait, c'est que elle a fait un live sur Insta vendredi soir, et elle a annoncé que d'abord le samedi, les ventes seraient uniquement réservées aux Spotify fans, et en fait, c'est des gens qui du coup sont déjà très engagés dans sa communauté, sa musique, sa personne. Dans le Web3, c'est un peu les mêmes trucs, genre les gens qui sont reward et qui vont avoir accès à des soirées en plus, accéder à des produits en plus, autre chose, c'est des gens qui sont identifiés comme étant très engagés déjà dans la communauté. Et comment tu l'es, c'est qu'en fait tu vas déjà être détenteur de plusieurs NFT, donc c'est comme ça qu'on remarque en gros que t'es engagé. Il y a ce truc là et en fait c'est une espèce d'expérience qui, plus t'as de NFT ou plus t'as des NFT rares dans ce qui est en termes de communauté, et plus tu débloques des paliers, en fait, mais des paliers d'exclusivité. Et je crois que récemment j'avais vu une Enfin là, je regardais sur Insta une, je crois que c'est une interview de Heather Ackerman et Oussama Chabi, voilà. Et en fait, dedans, Heather Ackerman disait voilà, aujourd'hui, il parlait de la question de l'exclusivité, de aujourd'hui l'exclusivité dans la mode, à quel point c'était important, mais quel point c'était, enfin, c'est un truc où on a peur d'être exclusif, mais en fait, comme si, étant donné que le mot inclusif arrive de plus en plus, que c'est antinomique de vouloir être exclusif sur certaines choses, alors qu'en fait, l'exclusivité, c'est aussi des moments uniques que t'offres aux gens,
en fait.
Tu vois,
comprendre, parce que exclusif, c'est pas exclure.
Oui, en fait, c'est ça. C'est juste que il y a des moments qui sont shape pour être unique, pour que tu t'en souviennes.
Et pour moi, l'exclusivité, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai utilisé ce mot, c'était dans ce sens.
Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il faut aussi remettre parfois les mots dans leur contexte. Et moi, je trouve que ça, c'est une... En tout cas, ça fait partie des opportunités que le Web3 offre aujourd'hui aux marques de mode. Et voilà, donc...
Il y a Olivier Jay qui dit... Pété de rire, donc moi je vais regarder un live pour me changer les idées, mais même ici on me rappelle que je ne verrai pas Aya. J'imagine qu'elle a pas eu ses places.
Pardon, je suis désolée.
Le concert c'est quand?
Le concert c'est le 26-27 mai, je crois.
26-27 mai, rendez-vous là-bas le 26.
Ah, tu y es le 26? Ok.
Je trouve.
Oui, madame a fait deux Bercy plutôt que de faire un Stade de France. Choices.
Ouais,
mais oui, mais si elle avait fait des NFT pour chaque billet, bah peut-être que les gens auraient pas acheté 100 billets pour les revendre sur le marché noir, quoi.
Voilà, il y a aussi ce truc. Mais bon.
Très concrètement. Ma dernière question, c'était, après, c'est quel conseil tu donnerais, mais c'était justement pour les gens lambda qui s'intéressent à la mode, est-ce que t'as un conseil ou une information clé à donner sur les NFT et le Web3?
Franchement.
C'est très vaste, effectivement.
En fait, ouais, je suis désolée, c'est tellement vaste comme question. Une information clé.
Mais enfin, peut-être que l'information clé, c'est qu'il n'y a pas à se précipiter dessus aussi non plus.
Moi, je vous dirais, c'est un peu comme tout quand tu commences à diguer quelque chose, de prendre le temps. Alors, je sais que le Web3, ça avance très vite, mais en fait, il y a aussi, en vrai, plein de podcasts qui parlent de Web3, plein d'émissions sur YouTube, il y a plein de gens qui font de la. Ou même, genre, j'ai pas, mais genre, le meilleur endroit où apprendre sur le Web3, genre, c'est TikTok. Enfin, il y a des gens, ils expliquent trop bien.
T'as un compte à recommander en particulier?
Non, mais même pas. Genre, en fait, c'est. Genre, moi, j'ai même pas TikTok, mais pour vous dire, genre, c'est que ma stagiaire et tout, parfois, elle me dit, ah, Chris, regarde et tout, elle raconte ça sur TikTok et tout. Mais en fait, c'est juste, tu digues dans le truc. Et des gens, et quand je dis, il y a des gens autant de mon âge, y a des gens beaucoup plus jeunes, je crois qu'il y a une fille genre américaine, genre qui fait très genre un peu bimbo girl et tout, qui explique, et c'est genre Web3 for blondies, un truc comme ça, je trouve ça tout.
Okay,
et genre c'est trop bien, tu vois, et je me dis, en fait c'est trop cool parce que c'est aussi montrer que, en fait, ce savoir devrait justement pas être réservé à une minorité de personnes parce que vu l'impact que ça va avoir dans certaines années, no way, en fait.
Justement, tu parles de l'impact que ça va avoir dans certaines années. Est-ce que tu dirais que le marché, l'industrie de la mode, elle est pas encore si mûre que ça sur la question de Web3?
Bah, en fait, tout dépend des marques, déjà.
Qui sont les marques à la pointe, à ton avis? S'il y avait une ou deux marques à citer.
Gucci, ce qu'ils font, c'est, ils ont lancé, Gucci, ce qu'ils font, je trouve que c'est assez superbe parce que, en fait, Gucci, déjà, de base, ils ont une communauté de fans qui, genre, les gens qui aiment Gucci, ils aiment trop Gucci, Et même les gens qui n'achètent pas Gucci, quand il y avait Alessandro Michele, il y a un truc très de genre de love brand. Et du coup, Gucci, ils ont fait pas mal de NFT, justement, autour de ça, où tu vas...
acheter des baskets, des stickers.
Ouais, voilà, mais aussi des NFT purement numériques associés à aucune pièce physique derrière, mais qui vont te faire partie de clubs de membres. Gucci fait ça très bien, pour moi, en fait, il y a des marques qui font des trucs, mais genre Gucci, là où pour moi ils sont très forts, c'est qu'ils ont compris comment faire du Web3 et des NFT tout en étant eux-mêmes. Et en fait, c'est toujours ce que je recommande aux marques, quoi que tu fasses, c'est genre, ok, il y a ça qui arrive, ok, tout le monde dit que le bleu aujourd'hui c'est à la mode, je sais pas quoi, mais en fait.
Le Viva Magenta.
Qui es-tu? Genre, qui es-tu en termes de marque? Comment ça s'insère dans ton. Dans ton identité de marque, comment? Et non, voilà, je pense que il y a beaucoup de choses à diguer et le conseil, vraiment pour les gens, c'est, essayez de vous renseigner, genre, ne serait-ce que genre, vous regardez sur Apple Podcast, vous checkez sur YouTube, vous allez sur TikTok, c'est au fur et à mesure, que vous allez comprendre, genre c'est pas overnight, mais tout comme je pense c'est pas en une fois que t'as appris à enfin la technique, non, genre ça prend du temps quoi.
Oui, ça prend du temps et le temps est important.
Voilà. Mmh. Voilà.
Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la fashion tech, pour travailler dans la fashion tech?
Alors moi déjà je suis très mauvaise en conseil parce que bah ouais, je me dis attends, fais de rien dire en fait. Non mais voilà, ça paraît assez bateau, mais je pense qu'il faut cultiver sa curiosité quoi.
Ouais.
Enfin, et je pense qu'en vrai, c'est les conseils de tout ce qu'il faut pour rester en vie dans la vie.
Ok, merci.
Mais, enfin, en fait, il y a un vrai truc de curiosité et c'est s'intéresser à des trucs qui, genre, t'intéressent vraiment. Enfin, après, ça paraît hyper bateau de dire ça et tout, mais le truc, c'est qu'en vrai, si ça t'intéresse pas, t'auras pas envie de le faire. T'auras pas envie de diguer la chose. Alors, oui, c'est vrai, je me rends évidemment compte que j'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi et que je ne subis pas, et je sais que c'est une grande chance par rapport à énormément d'autres gens, mais que en tout cas pour les gens qui peuvent avoir cette chance là il y a un vrai truc de, en fait, pour être dans la fashion tech il faut être extrêmement curieux de beaucoup de choses et de beaucoup de gens. Et oui, je travaille dans la fashion tech, mais je fais énormément de voilà de choses autour, enfin de moi il y a plein de choses qui m'intéressent. Et autant ce que je trouve cool en évoluant dans ce monde-là, c'est que ben chez moi il y a des, enfin chez moi dans ma boîte il y a des gens qui sont hyper tech, et que je sais pas, je crois qu'il y a un an et demi j'avais fait une présentation sur c'est quoi la fashion week, comment ça fonctionne, parce qu'en fait ben, il y a des gens dans la boîte qui savaient pas du tout ce que c'était. Mmh. Tout comme t'as des gens qui sont aussi hyper fashion dans la boîte, et ça je trouve que en tout cas moi c'est ce que j'aime dans le fait de travailler à la croisée de ces mondes-là, c'est que je me sens misfit dans le truc, parce que je suis ni en gros moi dans ma boîte et dans plein de trucs je suis genre en gros la fashion de service un peu. Mm-hmm. Mais quand je suis avec mes potes qui travaillent dans des maisons, je suis genre Cristal de la tech et tout, donc en fait ça me fait rire, tu vois.
Oui, par rapport à là où tu te trouves,
ça dépend de là où je me trouve, et après tu te dis finalement chaque personne a la perception de l'endroit où elle vient, tu vois.
Mm. Tous les points de vue sont situés,
voilà, exactement,
tout dépend d'eux.
Tous les points de vue sont situés. Mm. Exactement.
Tout à fait.
Bah, écoute, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et ça m'a donné envie de chercher sur TikTok des contenus sur le Web3.
Voilà.
Là, je viens de tomber sur.
Je vais commencer à.
mais ouais, le truc le plus concret, c'est les doubles numériques de biens de luxe. Je me dis. Voilà. Il y a. Donc, j'ai mis sur TikTok.com. Pardon, ma chérie. Dans le chat. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez plus de 400 personnes ce soir. Donc, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé vos questions, vos remarques, etc. Merci Ezoc, merci Inès pour l'installation de qualité, et merci Emily, merci Delphine.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.